Bonjour, Paul Jorion, titulaire de la chaire Stewardship of Finance à l'Université de Bruxelles, est intervenu dans le cadre des conférences de l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème « Actualité de la collapsologie ». Il est l'invité du magazine.
On va parler de collapsologie. Votre définition ?
C'est l'étude de l'effondrement non seulement des civilisations, mais peut-être du genre humain dans son ensemble, c'est-à-dire en fait passer à des sociétés de beaucoup plus petite taille, beaucoup moins organisées, beaucoup moins denses, sans doute, que celles que nous connaissons maintenant.
Quel a été votre cheminement pour vous préoccuper de cette question ?
C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on m'a demandé de faire une conférence, c'était aux anciens d'HEC, voilà, l'école de commerce à Paris, et on m'a dit, donner un panorama d'ensemble. Bon, alors j'ai parlé des choses sur lesquelles je parlais d'habitude, c'est-à-dire en fait du système financier, du système économique et de l'état de délabrement dans lequel il est et dont on a vu des signes en 2008 en particulier, et récemment dans le fait qu'on n'arrive pas à remettre véritablement cette machine en route. Mais au moment où on m'a demandé de faire un panorama général, j'ai dû étendre un petit peu la vision. Et j'ai un passé aussi dans un autre domaine que la finance, où j'ai travaillé 18 ans. C'est avant ça, j'étais dans l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Quand moi, je travaillais là-dedans, c'était la fin des années 80. Il y avait des goulots d'étranglement. Il y avait des choses qu'on n'arrive pas à résoudre. Et puis, tout ça est en train de se faire d'une manière, d'ailleurs, dont le public n'est pas conscient. Il a l'impression, il a encore une image, je dirais, du robot, qui est le robot des années 50, de ce robot qui s'appelle Roby, qui sur la planète Mars et qui est un truc qui fait beaucoup de bruit en marchant. Non, ça a bien avancé. Ce qui me semblait des obstacles qu'il fallait absolument lever et qui peut-être qu'on ne leverait jamais, ils ont été levés tout récemment. On disait encore l'année dernière dans une revue spécialisée que la machine n'arriverait jamais à gagner au jeu de Go, que les échecs c'était finalement relativement possible. Ça fait des années que les machines sont plus fortes que les êtres humains, mais que le Go n'arriverait jamais parce qu'il fallait un sens général de ce qui se passe. Il fallait des intuitions et la machine n'aurait jamais d'intuition, n'aurait jamais de conscience non plus, etc. Bon, alors c'est terminé. On peut voir la vidéo d'un champion de Go tout à fait défait, il ne comprend pas de ce qui se passe, mais la machine l'a battu, voilà. Donc ça, c'est une autre chose, c'est qu'il y a une complexité qui commence à monter autour de nous. Nous confions de plus en plus à ces ordinateurs, non seulement nous remplacer au travail, absolument surtout, mais aussi nous lui confions toutes nos décisions que nous devons prendre. Et par ailleurs, il y a en arrière-plan de tout ça, les conséquences qui nous rattrape du fait que nous avons toujours exploité la planète d'une manière absolument inqualifiable, que nous détruisons, nous avons essentiellement détruit, nous amassons les détritus autour de nous, nous confions aux générations suivantes le fait de pouvoir résoudre tous les problèmes que le nucléaire pose et que nous n'arrivons pas à résoudre, on se dit ils seront tellement malins plus tard, beaucoup plus que nous encore, et ils arriveront à résoudre le problème des déchets. Nous, en fait, j'ai employé l'image à ce moment-là pour cette conférence d'un soliton. Un soliton, c'est une notion de physique, c'est une vague d'une hauteur tout à fait inattendue, on appelle ça des vagues scélérates. C'est quoi ? C'est une vague qui est constituée de la somme de plusieurs autres. On ne sait pas, mais les ondes peuvent s'accumuler. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une vague énorme de l'ordre du tsunami, que nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes de nos systèmes économiques et financiers, la complexité commence à nous dépasser entièrement, et par ailleurs, nous avons créé une crise environnementale d'une dimension dont nous ne pouvons même pas nous représenter les conséquences. Si la température monte jusqu'à la fin du siècle, comme on dit qu'elle va le faire, même dans les scénarios les plus optimistes, même dans ce cas-là, nous aurons des problèmes tout à fait considérables. Il y aura des millions de réfugiés climatiques. L'eau va monter d'une manière catastrophique, non pas simplement parce que la glace fond, ce qui est le cas, mais aussi parce que tout le monde le sait, un liquide dont la température chauffe, même d'un tout petit peu, son volume augmente et nos pays côtiers vont être entièrement envahi. Moi, je parle ici à Nantes. Nantes disparaîtra à la fin du siècle si on ne fait rien pour empêcher que ça se passe comme ça.
C'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que des civilisations disparaissent. Est-ce que c'est comparable ?
C'est comparable d'une certaine manière, parce que nous avons notre travers essentiel, c'est que nous ne réfléchissons pas à ce que nous faisons et nous envahissons complètement un environnement et que nous détruisons petit à petit. Nous sommes équipés, comme les autres espèces animales, dans cette situation-là. Simplement, nous nous enfuyons. Quand le problème ne peut plus se résoudre, nous allons beaucoup plus loin. La difficulté que nous avons, c'est que nous ne sommes pas des lemmings qui peuvent simplement, les petits campagnols dont on sait que ça arrive, ils se mettent à pulluler et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'une partie de cette population qui s'enfuit en courant, ils courent tous dans la même direction et tout cela est adaptatif, ce n'est pas simplement de la folie collective, c'est parce que c'est le moyen de trouver une autre vallée quelque part. Ils tombent de falaises, mais c'est parce qu'ils essayent de traverser des montagnes, ils se noient dans des fleuves, mais c'est parce qu'ils essayent de passer d'un autre côté où il n'y a peut-être pas de lemmings, et ils trouvent une nouvelle vallée. Le problème avec les êtres humains, c'est que nous avons envahi complètement notre environnement, nous devrions trouver une autre planète, mais les autres planètes que nous pourrions habiter sont extrêmement lointaines, et donc nous sommes coincés. Nous sommes arrivés au bout des vallées que nous pouvions coloniser davantage. Et voilà, il faut que nous résolvions maintenant le problème parce que nous n'avons pas d'autres environnements quelque part. Si la science-fiction nous propose des scénarios extrêmement compliqués où on peut envoyer des fusées qui, par un trou de verre, vont se retrouver à proximité d'une autre galaxie, etc., etc. Mais tout ça n'est pas de l'ordre du réalisable de notre côté. Nous n'avons plus d'autres vallées à envahir, à coloniser. Il faut que nous résolvions le problème immédiatement. Or, nous n'en prenons absolument pas le chemin.
Et pourquoi ? Parce que les cris d'alarme, on les entend,
oui,
et de plus en plus.
Oui, mais nous avons un système économique qui considère qu'un problème est soluble uniquement si la solution peut être trouvée dans une perspective de profit. C'est-à-dire si la solution peut rapporter. Et vous pouvez regarder les initiatives qui sont prises, par exemple, en domaine de pollution, en domaine de gestion des déchets, c'est toujours des prix Nobel d'économie qui vous sont les proposés selon une procédure dans laquelle ça va rapporter quelque chose. Malheureusement, c'est d'une naïveté, c'est d'une stupidité tellement confondante. Les problèmes qui sont devant notre espèce ne sont pas des problèmes qu'on va pouvoir régler et en plus gagner de l'argent là-dessus. Non, ce sont des problèmes qu'il faudra résoudre indépendamment de toute question de perspective commerciale. On ne peut pas sauver l'espèce humaine dans une perspective commerciale, ça n'a absolument pas de sens.
Ça veut dire modifier intrinsèquement notre comportement ?
C'est difficile, parce que nous sommes une espèce, les biologistes, s'ils devaient la décrire comme ils décrivent d'autres espèces animales, diraient que c'est effectivement une espèce colonisatrice, mais aussi c'est une espèce qu'on appelle opportuniste, et c'est aussi une espèce sociale. Bon, une espèce sociale, on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire que nous n'avons pas l'habitude de vivre comme des Robinson Crusoe, Thomas Hobbes a imaginé que les hommes vivaient tous indépendants et puis qu'un jour ils se sont réunis, Rousseau aussi, pour réaliser un contrat social et à partir de ce jour ils ont décidé de vivre en société. Mais les éthologues vous disent, mais non, nous sommes des grands singes, regardez les grands singes vivent en bande, ils sont relativement organisés, il y a des hiérarchies dans leur organisation sociale. Nous aussi, nous sommes sociaux par nature et nous sommes opportunistes. Qu'est-ce que ça veut dire opportuniste pour une espèce ? C'est une espèce qui peut trouver de nouvelles stratégies, qui peut développer de nouvelles façons de faire les choses. Et nous, notre opportunisme, il s'est montré de manière extraordinaire dans le développement technologique. Nous avons trouvé des tas de moyens de faire des choses autrement et d'améliorer notre vie individuelle en termes de survie. Alors, nous avons des atouts. Nous savons ce qu'il faut faire d'une certaine manière. C'est lié à notre opportunisme. Nous savons comment nous organiser pour le faire. C'est lié à notre caractère social. Mais malheureusement, le troisième caractère, notre caractère colonisateur, nous conduit à avoir une politique de la terre brûlée. Nous avons inventé la propriété privée avec, dans cette notion de propriété privée, en particulier la notion d'abusus, c'est-à-dire que celui qui a quelque chose, il peut à la limite le détruire pour empêcher que les autres l'utilisent. C'est possible dans un monde de faire des choses comme ça, dans un monde qui est absolument vide. Ce n'est pas possible, évidemment, dans un monde où les choses deviennent limitées, où il faut recycler, où il faut récupérer, il faut vivre dans une perspective durable. Cet aspect-là, oui, cet aspect colonisateur, et malheureusement, notre système économique, le système capitaliste, est absolument dans cette logique. Il en est conscient, et il le dit, c'est la concurrence et non la solidarité qui règle les rapports entre les êtres humains, ce qui est tout à fait nié, bien entendu, par la biologie et la sociologie, mais c'est l'idéologie que nous avons, chacun pour soi, dans ce monde-ci. La stratégie du chacun pour soi, elle conduit tout droit à l'extinction. Si on continue comme ça, c'est réglé, les physiciens, les chimistes nous disent, à l'horizon de 60-90 années.
Vous parlez d'extinction totale des êtres humains ou simplement des homo economicus ou financiarus ?
La question de savoir s'il restera des êtres l'être humain ou dans des petites poches isolées, dans une perspective à la Mad Max, si vous voyez ce genre de film, ou si ce sera de la destruction totale, c'est difficile à dire. Si l'air devient irrespirable, si nous contaminons avec nos déchets nucléaires ou avec des centrales que nous ne pouvons plus entretenir parce que le désordre s'installera et qu'ils exploseront les unes après les autres, oui, c'est l'ensemble des êtres humains qui vont disparaître, pratiquement autour de nous, tous les animaux qui sont à peu près du même type. Et alors, on retombera, je dirais, assez bas dans l'évolution. Il faudra que la vie revienne des océans, etc. Si nous parvenons à gérer un tout petit peu la catastrophe, on peut imaginer qu'on retombe, on est à 7 milliards d'êtres humains, qu'on retombe à 1 milliard d'êtres humains vivant dans des petites communautés technologiquement beaucoup moins développées que ce que nous avons maintenant, petites sociétés se défendant contre les autres dans un relatif isolement, etc. Mais la question, je dirais, pour nous, c'est quand même de sauver ce que nous avons maintenant et pas de, j'essaie de trouver une consolation dans le fait qu'il restera peut-être des poches isolées ici ou là qui se battraient pour de l'énergie, comme on le voit dans ces films qui sont d'ailleurs très bien faits, la série des Mad Max.
C'est pas irréversible.
C'est ça que, malheureusement, que les physiciens et les chimistes nous disent maintenant. C'est qu'on a probablement déjà transgressé des barrières qui étaient des processus irréversibles. Il y a beaucoup trop dans l'air de dioxyde d'azote, et ça, on ne voit pas très bien comment on pourra le faire revenir ailleurs que là où il se trouve maintenant. Le niveau de CO2 dans l'atmosphère est beaucoup trop élevé, pas simplement pour une question de climat, mais aussi simplement pour notre respiration et la manière dont nous vivons. Le phosphore, nous avons tellement utilisé les phosphates pour fertiliser nos champs, que le phosphore se trouve maintenant pratiquement en grande quantité au fond des océans, ou le retrouver dans la terre comme ça devrait être le cas, etc. Oui, il y a probablement des cycles physiques qui sont déréglés et dont on voit mal, même si on mobilise entièrement nos forces maintenant, comment on pourrait arrêter le processus, parce que on a probablement déjà franchi des caps. L'augmentation de la température que l'on constate depuis, je dirais, le début du XXe siècle, c'est quelque chose dont nous n'avons pas le souvenir, aucun souvenir d'un phénomène de ce type-là, en termes de vitesse à laquelle ça s'accomplit, ne se trouve dans l'évidence qu'on peut trouver, les preuves que nous trouvons autour de nous dans le monde de physique. Ça n'a jamais eu lieu. Et c'est probablement, il y a quelques sceptiques encore ici ou là, mais c'est probablement nous qui avons créé ça par la manière dont nous envahissons notre environnement et dont nous détruisons les choses autour de nous et dont nous polluons notre atmosphère.
Quel est l'intérêt, à partir du moment où on le constate, c'est que c'est déjà trop tard, de poursuivre à lancer des cris d'alarme ?
C'est pour la beauté du geste. On me pose souvent la question, je dis c'est pour la beauté du geste. Il y a une certaine fierté quand même liée à la lucidité, de comprendre ce qui se passe. Et ça, je dirais, c'est peut-être, à mon sens, c'est parmi les plus belles choses. C'est notre capacité à faire des choses alors que ça n'a déjà plus de signification. Dans des cadres, c'est la gare de Meurges, mais je ne me rends pas, et ainsi de suite. Nous avons quand même, en tant qu'animal, quelque chose de tout à fait remarquable. Nous ne connaissons pas d'animaux sur d'autres planètes, mais parmi les animaux autour de nous, nous avons des comportements dont nous pouvons, à l'intérieur de notre représentation de nous-mêmes, de dire qu'ils sont absolument abjects et abominables, mais aussi de trouver qu'il y a des choses qui sont probablement une invention de la nature, que la nature n'a jamais fait avant. Et ça, je crois que nous devons avoir une certaine fierté par rapport à ça. Et aussi de nous dire, parce que nous avons la capacité de réfléchir, que même si la cause est perdue, il faut quand même faire le maximum, parce que nous avons tous des enfants, des petits-enfants, peut-être même des arrière-petits-enfants. Nous ne pouvons pas baisser les bras sous prétexte que les choses sont déjà très très mal engagées. Il faut au moins essayer de sauver les meubles. Je dirais que ça fait partie des choses admirables de notre espèce. Essayer de sauver les meubles, essayer de sauver l'honneur, comme on dit. C'est une notion qu'on ne trouve pas non plus ailleurs que dans notre espèce humaine. Et qu'est-ce que c'est l'honneur ? C'est faire passer la qualité avant la quantité. Et malheureusement, nous sommes dans un monde qui a mis la quantité à l'avant-plan et qui traduit les qualités, quand on parle de qualité, qui essaie de les traduire en chiffres. Quand on parle du bonheur, on dit oui, mais on va essayer de mesurer ça. Non, non, le bonheur, on l'a ou on ne l'a pas. Il faut qu'on revienne à des choses aussi simples. Son honneur, on peut l'avoir toujours, on peut l'avoir perdu. Il y a cette très belle phrase, vous vous souvenez sans doute de la pièce de Pagnol, je ne sais plus dans laquelle c'est, dans la trilogie marseillaise. L'honneur, c'est comme les allumettes, on ne l'utilise qu'une seule fois. Ça, c'est des choses qui sont propres à la nature humaine et dont nous devons être fiers. Et je dirais, nous battre jusqu'au bout pour ce genre de choses.
On peut dater la bascule, donc au moment où c'est devenu irréversible.
Malheureusement, il y en a certains qui disent que la bascule, c'était autour de 1800, au début de la révolution industrielle, que nous sommes partis avec l'utilisation du charbon et ensuite du pétrole, que nous sommes partis dans quelque chose qui devait détruire automatiquement. Si ce n'était pas arrêté immédiatement, allait détruire tout à fait les choses. Donc ça, c'est une version tout à fait pessimiste, parce que On peut se dire, si on peut encore changer les choses au niveau des contemporains, des gens qui sont là, ça c'est c'est relativement rassurant. Mais si la mauvaise décision a été prise, 1800, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait pratiquement 8-9 générations avant nous. Là, évidemment, on peut pas faire grand-chose. Mais ce n'est pas une raison, je dirais, pour ne pas nous battre jusqu'au bout. Nous avons, par rapport aux gens de 1800, nous avons une technologie que nous pouvons essayer d'utiliser quand même au mieux.
Paul Jorion, titulaire de la chaire Stewardship of Finance à l'Université de Bruxelles, est l'invité du magazine.
Pour gens de 1800, nous avons une technologie que nous pouvons essayer d'utiliser quand même au mieux. Ça ne veut pas dire que la solution viendra nécessairement de là. Les problèmes que nous essayons de résoudre maintenant sont peut-être insolubles. Il y a aussi beaucoup, je dirais, d'espérances de type si ça va vraiment mal, il y aura probablement des extraterrestres quelque part qui nous prendront en pitié. Mais enfin, bon, tout ça, il faut mettre entre parenthèses, il faut garder ça dans l'univers de la science-fiction et pas espérer que ça se passera comme ça. Il y a une naïveté. Je voyais des gens qui étaient interrogés, c'était hier dans un sondage. Il y a beaucoup de gens qui disent « oui, mais la technologie va nous sauver ». À partir de quoi disent-ils cela? Je n'ai pas la moindre idée. Oui, ce que la technologie peut faire, c'est faire des machines qui peuvent vivre dans un milieu aussi pollué que le nôtre. Oui, les robots n'ont pas besoin qu'il y ait de telles quantités de CO2 dans l'atmosphère. La preuve, il y en a un sur Mars qui se débrouille absolument bien. Il pourrait même faire des choses tout seul. Il n'a pas besoin de la moindre atmosphère autour de lui. Mais nous devons avoir accès toutes les 10 secondes à peu près à de l'oxygène. Un robot, non. Alors on peut imaginer effectivement que nous ayons inventé des machines qui pourront nous survivre et que ça pose aucun problème dans un monde beaucoup plus pollué que le nôtre. On envoie des robots à Fukushima, à des endroits où un être humain ne survivrait que quelques minutes, on peut le faire. Mais là, je dirais, c'est une autre chose. Et il y a beaucoup de gens maintenant, je dirais des gens très sensés, pas du tout des fous, qui nous disent, notre destin, c'est d'avoir créé des machines qui nous survivront. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. Finalement, cette idée qu'on pouvait vivre facilement, alors que justement, il fallait trouver de l'oxygène toutes les 10 secondes, boire de l'eau toutes les heures, trouver de la nourriture autour de soi, tout ça, c'est bien fragile. C'est une bonne idée pour nous d'avoir inventé des machines qui ne seront pas soumises à toutes ces contraintes, parce que ces contraintes, en réalité, sont très, très dures. La preuve, c'est qu'après quelques générations sur la Terre, nous supprimons, en réalité, involontairement, ces conditions-là. Nous les rendons impossibles, et par conséquent, le mieux que puissions faire maintenant, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de consacrer toutes nos énergies à ces machines qui nous survivront et nous pouvons faire qu'elles liront nos livres, qu'elles aimeront voir les mêmes pièces de théâtre que nous, etc. Et vous savez, il y a déjà toute une littérature, du cinéma, des séries de télévision qui jouent autour de ça, qui sont très amusantes et qui nous montrent en fait que c'est tout à fait possible.
Nos aînés en 1800 prédisaient notre disparition, à quelle échéance ?
C'est étonnant, par exemple, parce qu'il y a à cette époque-là, il y a un texte de Lamarck, il y a un texte du biologiste Lamarck, c'est quelqu'un dont on a parlé moins parce qu'on a considéré que Darwin avait raison, parce que Lamarck imaginait que les caractères acquis étaient transmis. Lamarck doit être content dans sa tombe parce que depuis une vingtaine d'années, on découvre que le lamarckisme existe probablement, qu'il avait probablement raison. Mais dans un texte qui date, je crois que c'est de l'ordre de 1810, je ne me souviens plus exactement de la date, ou peut-être même antérieure, Lamarck dit exactement ce que je viens de dire. Nous sommes une espèce colonisatrice qui n'a aucun respect pour son environnement, qui va l'épuiser entièrement. Il y a, dit Lamarck, presque comme un plaisir pour l'homme à rendre le monde dans lequel il vit invivable. Donc oui, en fait, il le savait déjà à ce moment-là.
Merci à Paul Jorion, titulaire de la chaire Stewardship of Finance à l'Université de Bruxelles, pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec la complicité de l'Institut d'études avancées de Nantes.
Comme vous l'avez dû le comprendre, la vision que j'ai, elle est fort imprégnée de ma familiarité avec la psychanalyse. Ce genre de choses, on le voit rarement, on l'entend rarement dire, des propos comme les miens, sauf par des psychanalystes. J'entends ça effectivement dans des colloques de psychanalystes. On rit parce qu'on dit à peu près ce genre de choses. Pourquoi ? C'est parce que, je dirais, il faut une certaine lucidité pour envisager les choses, je dirais, pour regarder les choses véritablement en face. Et dans notre tradition philosophique. C'est essentiellement quelqu'un qui s'appelait un philosophe allemand, qui s'appelait Schopenhauer, qui a lancé ce genre de réflexion. Schopenhauer a eu un grand élève qui était Nietzsche, et Nietzsche a eu un très grand élève qui s'appelait Sigmund Freud. Et donc, il y a effectivement, je dirais, une perspective de ce type-là inscrite à la métapsychologie freudienne. Il y a effectivement cette exigence de lucidité. Et elle n'est pas gratuite. Parce que Freud avait trouvé que la lucidité, finalement, c'est une très bonne recette pour comprendre ce qui se passe autour de nous et pour vivre une vie heureuse. C'est pas par hasard. Et une fois qu'on a un regard lucide sur la manière dont nous sommes jetés dans ce monde, comment nous survivons, comment c'est essentiellement un devoir de reproduction qui dirige la plupart de nos gestes, une fois qu'on a compris ça, il y a la possibilité, je dirais, de se retrousser les manches pour rendre ce monde vivable et dans la situation où nous sommes pour essayer de le sauver.